France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1869 paraissait en France un texte inclassable à la croisée des sciences de la nature et de la géographie et de la poésie politique, histoire d'un ruisseau écrit par le géographe anarchiste Élisée Reclus. En suivant le cours d'un ruisseau tantôt clair, tantôt souillé par les activités humaines, Reclus dessine en méandre le croquis d'une pensée environnementale naissante et se pose la question du rapport des sociétés à la nature. Science Chrono écarte aujourd'hui les branches qui nous séparent de ce ruisseau et d'une onde à l'autre se demande ce qu'il nous reste de la pensée d'Élisée Reclus. Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère de l'Université Paris-Cité. Vous avez écrit une présentation de ce livre « Histoire d'un ruisseau » paru aux éditions du Pommier en 2023. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir ce texte merveilleux qu'est « Histoire d'un ruisseau ». Alors avant de présenter Élisée Reclus et sa pensée, il me faut vous annoncer le programme de la deuxième partie de l'émission dédiée à l'archéologie. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous vous parlerons de la découverte récente à Orléans d'une nécropole gallo-romaine, un peu atypique par sa forme et par les vestiges qu'elle abritait. Parmi ces vestiges, on a retrouvé 22 tablettes de malédiction, des tablettes qu'on mettait parfois dans les tombes antiques pour maudire ou envoûter les vivants. Mais à présent, on va aller vers une autre forme d'envoûtement plus pacifique, celle de cette histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus qui décrit la vie d'un petit cours d'eau de la naissance de la goutte d'eau jusqu'à l'embouchure et qui pose de nombreuses questions mêlant géographie, hydrologie, poésie et pensée politique. Avant d'écouter tout à l'heure Valérie Chansigaud un extrait de ce très beau texte Histoire d'un ruisseau, il me semble important qu'on se mette dans les pas d'un marcheur, d'un très grand marcheur, Élisée Reclus, qui est une figure à la fois fascinante et finalement assez peu connue en France, même si on le redécouvre depuis quelques années. J'aimerais qu'on fasse un portrait un peu biographique de ce personnage-là. Il est né où ? Il a grandi dans quel environnement intellectuel, social ?
Sa biographie est d'autant plus importante que sa famille est très grande.
Ils étaient 14 frères et sœurs.
Oui. Et ses frères et comme ses sœurs vont jouer un grand rôle auprès de lui, puis ses neveux. Et en fait, c'est vraiment une sorte de... C'est l'histoire d'un penseur vraiment pas ordinaire, mais aussi c'est l'histoire d'une famille, d'une saga familiale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous ses membres n'ont pas choisi exactement la même trajectoire qu'Élisée Reclus. Certains l'ont accompagné, mais pas tous.
Il était très proche de son frère Élie, qui pour le coup il formait vraiment un binôme très fusionnel tous les deux. Élie était lui anthropologue, je crois.
Oui, c'est l'un des premiers à avoir cherché à faire la promotion, une description non péjorative des peuples dits sauvages, pour reprendre l'expression de l'époque. Son frère a un enfant qui va être prénommé Paul et qui va accompagner Élisée Reclus vers la fin de sa vie. C'est d'ailleurs lui qui va accompagner sa dépouille en 1905. Et cette famille est dominée bien sûr par la figure du père qui est pasteur, et il aimerait beaucoup que Élisée et son frère Élie deviennent à leur tour pasteurs. Il va faire vraiment beaucoup d'efforts, mais totalement en vain.
Il les force à partir en Allemagne, il les force à partir à Strasbourg pour étudier la théologie. À chaque fois, les deux larrons s'échappent, fuient. Ça va l'air d'être un personnage assez intense, ce père. Qu'est-ce qu'il a pu leur léguer dans peut-être la forme d'exigence qu'ils ont entretenue vis-à-vis de leurs travaux scientifiques a posteriori?
Certainement une grande culture, un grand intérêt pour la lecture, pour la réflexion, la culture des textes anciens. C'est vraiment un environnement qu'on voit le destin des fils et des filles. On sent vraiment que la culture occupe une grande place dans cette famille. Donc, donc, même s'il a eu certainement des côtés extrêmement autoritaires, d'essayer de contrôler comme cela ses enfants, il y avait dans la famille aussi un climat tout à fait favorable à un épanouissement intellectuel.
Et au voyage, ça c'est quelque chose qui est très impressionnant quand on s'intéresse à Élisée Reclus, mais aussi à son frère Élie et à cette famille, c'est ce côté girovague. On a l'impression qu'ils sont toujours en balade, qu'ils sont toujours par les quatre coins du monde. C'est difficile d'établir une cartographie complète des déplacements d'Élisée Reclus. Si on doit faire quand même un petit premier itinéraire d'Élisée Reclus avant Histoire d'un ruisseau, il est passé par où et qu'est-ce que ça lui a apporté d'un point de vue scientifique, intellectuel, dans sa vie de géographe, on va dire?
Alors, tout d'abord, son père l'expédie avec Élie en Prusse, d'un établissement qui est vraiment extrêmement rigide, dans lequel il est très malheureux. D'après sa correspondance, ils s'en échappent tous les deux et reviennent à pied jusqu'en Gironde, ce qui est un long itinéraire. Et en fait, ça va être une grande caractéristique d'Élisée, c'est d'avoir été un marcheur infatigable. Il va beaucoup marcher durant toute sa vie. À partir de là, son père refait une tentative en les plaçant dans un collège protestant, théologique. Ça ne marche pas mieux, d'autant que les enfants grandissant, ils commencent à s'intéresser à la politique et prendre des positions qui sont pas totalement acceptée à l'époque et s'engage.
Des positions anarchiques, on peut le dire.
Alors,
en tout
d'abord
cas,
des positions républicaines. Voilà. Ils vont s'opposer au coup d'État de 1851. Ils vont quitter la France pour cela. Et à partir de là, j'irai à partir du moment où Élisée devient adulte. En fait, il va passer l'essentiel de sa vie d'adulte à l'étranger, très souvent en exil, parce qu'il est persécuté pour ses convictions politiques. Et c'est vraiment une caractéristique de sa vie, de sa construction intellectuelle. Et bien sûr, ça va alimenter son œuvre géographique et politique.
Et cette sensibilité sociale, elle se façonne durant ses voyages. Vous le dites, Valérie Chansigaud, il vit l'essentiel de sa vie, finalement, Élisée Reclus, à l'étranger, soit en exil, soit parce qu'il est parti à l'aventure. Il va vivre en Louisiane, notamment, où il est précepteur dans une famille de planteurs. Là, ce qu'il constate là-bas, notamment avec ses esclaves dans cette plantation, le dégoûte profondément. Il décide de partir, il va en Colombie, là il veut devenir lui-même agriculteur et construire sa propre plantation, alors sans esclaves bien sûr, c'est un fiasco assez notable.
Complet.
C'est pas le maître, c'est pas un très grand horticulteur. Et donc il revient en France et là il va commencer à mettre en place un travail éditorial. Ça, il faut le dire aussi, Valérie Chansigaud, Élisée Reclus, c'était un graphomane, il a écrit toute sa vie énormément. Par quoi il commence? Quels sont les premiers travaux d'écriture qu'il met en place?
Quand il revient en France, il obtient un emploi pour participer à la rédaction des Guides Joanne, édité par la Maison Hachette. La Maison Hachette, en fait, a pris le pas de façon très intelligente de l'essor du chemin de fer et du tourisme en installant dans les gares des points de vente pour un certain nombre d'ouvrages, notamment des guides touristiques, les fameux guides Joanne. Et Élisée Reclus, pour réaliser ce guide, va se mettre à marcher beaucoup pour explorer les régions qu'il va décrire. Il est notamment l'auteur de guides sur les stations balnéaires fréquentées par l'aristocratie et la grande bourgeoisie, ce qui
Nice,
est quand même
Monaco.
Quelque part assez ironique. Ça va lui donner aussi l'occasion à nouveau de parcourir le territoire, l'espace, de découvrir diverses formes de la nature. Il a toujours été extrêmement sensible au contact de la nature. Il le dit d'ailleurs dans plusieurs de ses livres, notamment dans l'Histoire d'un ruisseau, il y a vraiment l'éloge du contact à la nature qui enseigne, en fait, qui transforme celui qui est ou celle qui est au contact de la nature, qui est une position relativement rare en France, plus commune dans d'autres cultures, notamment anglo-saxonnes. Et ça va être vraiment un élément central. Mmh. Très vite aussi, il va commencer à écrire des articles, cette fois de vulgarisation vulgarisation scientifique, de synthèse des connaissances pour une revue culturelle prestigieuse alors, la Revue des Deux Mondes.
Qui existe encore, mais qui
existe encore.
Voilà, moins cette influence ou en tout cas cette présence publique d'importance.
Et à l'époque, c'est vraiment une revue importante qui publie énormément. Il faut voir les volumes qui paraissent tous les mois. C'est 400, plus de 400 pages. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très, très impressionnant. Et Élisée Reclus va faire toute une série de publications, parfois en épisodes, sur son expérience dans les voyages, mais aussi sur des points de géographie. Par exemple, il y a un article fameux où il s'interroge sur le manque d'intérêt des Français par rapport aux voisins germanophones et anglophones pour la nature, et notamment pour la nature sauvage. Ça l'interroge beaucoup. Il n'est pas le seul à s'interroger sur la particularité française, et il peut d'autant plus le faire qu'il connaît effectivement bien l'Allemagne, bien l'Angleterre, et il peut effectivement faire des comparaisons.
Vous parlez de la géographie, c'est important, parce qu'on n'a pas mentionné, Élisée Reclus l'a étudié, la géographie, notamment à Berlin, au contact du plus grand géographe allemand de l'époque, Karl Ritter. Leur vision de la géographie était sans doute divergente sur l'utilité sociale finalement qu'on en faisait, et à quel
Tout
point
à
finalement la géographie pouvait à l'époque justifier de certaines théories suprémacistes, racistes, ce qui était le but de Karl Ritter, ce qui n'était pas du tout le but d'Élisée Reclus. À quoi servait la géographie à l'époque? Comment on peut définir cette science quand Élisée Reclus décide de la pratiquer?
Alors, la géographie a déjà connu une mue considérable parce que la discipline qui a longtemps été d'abord avant tout une discipline de description physique des territoires devient, grâce à Karl Ritter, mais grâce également à Humboldt, ce grand voyageur qui fait un voyage en Amérique du Sud entre 1799 et 1804, les deux vont en fait fonder une géographie moderne dans laquelle la réflexion est très simple, c'est en comment, en quoi un paysage, la nature du sol, des ressources peut influer sur la construction et l'histoire des peuples. C'est en quelque sorte une pensée pré-écologiste, si on veut, c'est-à-dire c'est comment l'environnement influence une population humaine, et les deux, Humboldt et Ritter, vont avoir une influence majeure. Ritter en fondant vraiment une discipline nouvelle, et parmi ses élèves, effectivement, il y aura un Reclus très attentif à cette question-là, sauf qu'effectivement, les conclusions de Ritter et de Reclus sont quand même singulièrement différentes.
En 1868-1869 paraît La Terre, donc là, peut-être le premier grand succès d'estime intellectuelle pour Élisée Reclus, et on en arrive à présent, en 1869, à ce texte-là. On s'est rapproché tout doucement, à petits pas, du ruisseau. On est à présent au bord de notre archive. On retrousse les jambes de nos pantalons et on va cheminer dans ce très beau texte. Écoutez cet extrait d'Histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus. On lit, on écoute le début du premier chapitre intitulé La source, et la lecture vous est faite par Laurent Blanpin.
L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune les a vaguement irisés. La foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace, toutes les forces cosmiques ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos. Toutefois, notre regard n'est point assez vaste pour embrasser dans son ensemble le circuit de la goutte, et nous nous bornons à la suivre dans ses détours et ses chutes, depuis son apparition dans la source jusqu'à son mélange avec l'eau du grand fleuve ou de l'océan. Faibles comme nous le sommes, nous tâchons de mesurer la nature à notre taille. Chacun de ces phénomènes se résume pour nous en un petit nombre d'impressions que nous avons ressenties.
Voilà, Valérie Chansigaud, ce texte, c'est un pur régal, c'est un pur bonheur à lire et c'est tellement riche, il y a tellement de strates dans ce qu'on entend là, dans cette lecture proposée par Laurent Blanpin. Voilà, on entend parler de cosmos, on entend parler de chimie, on entend parler de peuple, on entend parler de tout ça à la fois. Comment décrire par le menu Histoire d'un ruisseau, qui est un texte assez court et qui est un texte qui a été plusieurs fois réédité. Vous avez écrit la présentation de ce texte-là aux éditions du Pommier en 2023. Un texte qui est un peu à part dans la bibliographie d'Élisée Reclus.
Élisée Reclus va réaliser deux textes un peu différents du reste, l'histoire d'un ruisseau et l'histoire d'une montagne, dans lequel il va faire la même chose, c'est qu'il fait en fait un livre de vulgarisation scientifique et poétique, c'est vraiment un mélange des genres, dans lequel la nature, ici un ruisseau, est le sujet principal. Et ça signe vraiment l'identité du genre anglo-saxon qui s'appelle le nature writing, dans lequel en fait un genre qui est quasiment inconnu en France, qui a jamais eu un très grand succès, dans le genre dans lequel on va décrire avec une langue extrêmement belle, élaborée, vraiment, c'est de très beaux textes, où on va décrire la nature et son fonctionnement. C'est très souvent centré sur des animaux, mais là, effectivement, Reclus le centre sur autre chose.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de nature writing, parce qu'on peut penser à Sorrow avec Walden ou La vie dans les bois, qui est paru en 1854. Plus tard, il y aura John Muir avec, par exemple, Un été dans la Sierra. Au même moment, quand même, quelques années avant la parution d'Histoire d'un ruisseau. En France, Jules Michelet, le grand historien, fait paraître La mer en 1861, La montagne en 1868. Le philosophe positiviste Hippolyte Taine lui publie en 1855 Voyage aux Pyrénées. Donc il y a quand même cette espèce de tendance à s'intéresser à des espaces, à consacrer des monographies à des espaces. Pour en tirer quoi comme leçon ?
Alors, c'est des ouvrages de nature très très différentes. Mm-hmm. Dans le cas de Michelet, il y a vraiment une lecture qui est moins scientifique, on va dire, qu'Élisée Reclus, est beaucoup plus tournée vers une sorte de mysticisme ou d'ésotérisme, ce qui n'existe pas chez Élisée Reclus. Élisée Reclus se contente de décrire la réalité, avec certes une langue extrêmement poétique, mais sans pour autant échapper à la précision de ce qu'il décrit. Il s'interroge sur des questions relevant des sciences humaines et sociales, des traditions, des croyances, le rôle en fait de l'eau dans l'histoire des peuples. C'est en fait extrêmement ambitieux comme ouvrage, tandis que Michelet va être dans une position de beaucoup plus réfléchir à des mécanismes occultes en fait du monde. Mmh. Et les deux angles sont quand même très très nettement différents. De toute façon, à cette époque, il y a une passion généralisée pour découvrir le monde, un appétit pour la diffusion des connaissances, pour la vulgarisation, dont on a très peu d'idées. Mmh. On vit à une époque où, en fait, accéder aux connaissances est devenu tellement facile que ce n'est plus valorisé. Il n'y a pas une impression comme ça de découverte magique de nouveaux savoirs. C'est un peu dommage. On a perdu notre, je sais pas, un certain degré d'émotion par rapport à l'acquisition de connaissances.
Ouais, oui, de sensibilité qui est omniprésente dans ces lignes d'Histoire d'un ruisseau. Qu'est-ce qu'on sait de la réception de cet ouvrage-là par les pairs, mais aussi par le grand public, puisque vous le dites, c'est un ouvrage de vulgarisation considéré comme tel à l'époque?
Alors déjà, elle se place dans la catégorie des livres d'étrennes. C'est comme ça qu'il va être classé. Alors ça, on a perdu de vue ce que c'était.
C'est un peu, c'est comme les bons points ou les bonnes images.
Oui,
quand on a
c'est des ouvrages qu'on reçoit en général les adolescents, mais ça peut être aussi éventuellement des cadeaux pour les adultes. En fait, la répartition du lectorat est pas très claire au moment des étrennes, au moment du jour de l'an, et c'est un peu pour récompenser les enfants les plus sages, les plus modèles. Et donc il y a toute une production éditoriale destinée à fournir. C'est des ouvrages relativement grands, très souvent illustrés avec des belles gravures. Enfin, c'est vraiment de très beaux ouvrages à découvrir, et se place dans ce marché là et il va être considéré d'abord avec une certaine distance. C'est pas un très grand succès de librairie, mais par contre, quelques années plus tard, lorsqu'il va sortir l'histoire d'une montagne, l'ouvrage va bénéficier de cette sortie pour l'histoire d'un ruisseau va paraître à nouveau. Et là, les critiques vont être beaucoup plus intéressés, beaucoup plus chaleureux sur cette sortie.
Est-ce que c'est cette dimension poétique, pas politique, le lapsus, on va y venir à son sens, mais est-ce que c'est cette dimension poétique qui dessert d'une certaine façon le propos d'Élisée Reclus auprès de ses pairs qui le considèrent peut-être comme un gentil rêveur un peu lyrique?
Il faut voir qu'Élisée Reclus, parallèlement à ça, a fait d'autres choses qui lui donnent une notoriété scientifique beaucoup plus grande. Du coup, il n'est pas dévalorisé par la sortie de cet ouvrage, d'autant que beaucoup de scientifiques à son époque publient également des ouvrages de vulgarisation. Ça fait partie de l'exercice habituel de celui ou celle qui sait, plutôt celui, parce que c'est...
C'est encore masculin, c'est quand
très,
même.
C'est très, très largement
à 99,999%.
C'est vraiment, en fait, ça fait partie du rôle de celui qui sait de transmettre ses connaissances au plus grand nombre.
Vous parlez des autres travaux qui ont assis l'autorité intellectuelle d'Élisée Reclus. On en a assez peu parlé. J'évoquais tout à l'heure la Terre. Est-ce que c'est l'essentiel, la Terre, du travail qui a convaincu, finalement
La Terre en deux volumes, c'est un ouvrage important, mais plus important encore, il y a la Nouvelle Géographie. Universelle qui est beaucoup plus vaste.
Colossal travail en 19 volumes, ouais, c'est ça, 19 volumes.
Et cet ouvrage vise vraiment à offrir une description complète du globe, non seulement géographique, mais très. C'est de la géographie humaine, ce qu'il décrit, c'est vraiment la Terre et ses habitants. Et ce qui est très intéressant, pour la première fois, pour un travail de cette ampleur, il cherche à avoir un équilibre entre les volumes consacrés à l'Europe ou à l'Amérique du Nord avec ceux consacrés à d'autres continents et d'autres cultures. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, les autres continents, en fait, font l'objet d'un travail extrêmement minutieux et n'est pas c'est une vision vraiment globale et universelle. Il ne néglige en fait aucune facette de la Terre à cette époque.
Tout à l'heure, je confondais le mot poétique et politique. Comment la compréhension des mécanismes de la nature tels qu'il les décrit dans l'histoire d'un ruisseau permet à Élisée Reclus finalement d'avoir de développer une pensée libertaire, anarchiste?
Il faut voir que ce qui caractérise peut-être le plus Élisée Reclus, et il ne sera pas le seul anarchiste dans ce cas, on peut penser à Pierre Kropotkine qui va jouer un rôle important en faisant un livre sur l'entraide comme un mécanisme en fait oublié par Darwin. En fait, Darwin n'avait pas oublié cet aspect-là, mais simplement il n'avait pas eu le temps de le traiter. Et Pierre Kropotkine est aussi un géographe, et les deux sont darwiniens. En fait, pour eux, ils voit dans la théorie de l'évolution une façon de démontrer la dimension naturelle de l'aspiration à plus de liberté, plus d'égalité, plus de solidarité. Très souvent, dans leurs textes, d'ailleurs, Élisée Reclus va consacrer un livre important qui s'appelle « Évolution, révolution et idéal anarchique » sur cette question-là, tout en ayant une vision extrêmement prudente. C'est-à-dire, il n'est pas un optimiste béat, il est un optimiste, mais toujours avec une prudence dans cette analyse. Par exemple, il va beaucoup utiliser le mot de progrès. Le mot de régrès associé au mot de progrès.
La régression associée au progrès, voilà, il n'est pas du tout dans une admiration béate, comme vous le disiez, du progrès.
Oui,
ça pouvait être le cas souvent au 19e siècle à ce moment-là.
Et il est extrêmement critique, mais c'est ça qui en fait l'intérêt aujourd'hui. C'est-à-dire, il va vraiment réfléchir à comment les peuples peuvent être non seulement plus solidaires, plus libres, mais également comment cette liberté l'humanité doit s'inscrire dans le respect et de la planète, mais aussi d'autres organismes vivants, des animaux notamment. Reclus était végétarien, militant de la cause végétarienne, avec d'autres anarchistes. Et c'est une question intéressante parce que pour lui, le rejet de la domination, de la brutalité et de la violence induite par les formes de domination, en fait, n'impacte pas simplement que les êtres humains, mais impacte l'ensemble de la nature. Et il faut en fait envisager une autre relation.
Alors, tout ça, là, tout ce portrait que vous nous faites de reclus, finalement, en homme de combat, ça s'exprime très fort au moment de la Commune en 1871, à laquelle il participe. Il est arrêté par les Versaillais, menacé d'expatriation et d'expulsion et d'enfermement en Nouvelle-Calédonie. Il y a une pétition qui circule. Darwin signe cette pétition pour libérer Élisée Reclus et il est, par chance, on va dire ça comme ça, condamné seulement à 10 ans d'exil, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc je crois qu'il part en Belgique. Est-ce que c'est cette dimension aussi, cet engagement politique qui explique d'une certaine façon que Reclus ait pu disparaître un peu dans les limbes de l'histoire, être moins lu que certains de ses confrères, alors qu'à l'époque on le comparait à Buffon, à Cuvier, à d'autres grands noms comme ça de l'histoire des sciences?
Il faut bien voir que ses convictions anarchistes se lisent dans sa façon de faire de la géographie, de comprendre l'histoire des peuples, le rôle entre l'environnement et la construction des différentes cultures. Ce sont vraiment deux aspects totalement indissociables. C'est pas un géographe qui est par ailleurs militant anarchiste, c'est un géographe anarchiste ou un anarchiste géographe. Ce qui se passe aussi, il va effectivement disparaître après 1905, il va être très peu lu.
1905, il meurt en 1905.
Tout à fait, en Belgique, où il est en exil. Mais il faut voir que cette disparition doit sans doute s'expliquer pas simplement qu'à travers le cas Élisée Reclus, mais avec une régression très forte au moment de la Première Guerre mondiale, de la présence du mouvement anarchiste en France. À la fin du 19e siècle.
C'est scélérate, et là c'est vraiment le moment aussi où on ne veut pas d'anarchistes en France.
Oui. Et puis la Première Guerre mondiale va mettre un terme à beaucoup d'engagements militants. Et le mouvement qui va passer d'environ 100 000 sympathisants à la fin du 19e siècle, ce qui est absolument beaucoup, à des choses beaucoup plus... à des mouvements beaucoup plus petits.
De l'ombre, oui. On arrive vers la fin de notre discussion. Valérie Chansigaud, je suis obligé de vous poser cette question un peu tarte à la crème, mais est-ce que Élisée Reclus, on cherche tout le temps des pionniers, des précurseurs, est-ce qu'Élisée Reclus a d'une certaine façon, par des textes comme Histoire d'un ruisseau, mais pas que, été un pionnier, précurseur d'une première pensée écologique? On avait consacré une émission entière de Science Chrono au terme écologie à sa naissance sous la plume d'Ernst Haeckel, donc je vous renvoie et je vous invite à la réécouter. Mais est-ce que d'une certaine façon c'est un pionnier, un précurseur de l'écologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui?
Alors justement, le problème c'est la définition de l'écologie. Comme vous avez consacré une émission, vous savez que c'est compliqué.
C'est pour ça que je disais, allez écouter ça, parce que c'est compliqué.
On va dire que c'est clairement le premier à avoir réfléchi, à essayer de faire un essai de philosophie politique dans lequel il intégrait la question de l'environnement et de sa sauvegarde. La sauvegarde de l'humanité, la sauvegarde de la nature sont étroitement liés. Et en cela, effectivement, il est tout à fait novateur. Et c'est pour ça qu'on le redécouvre actuellement, parce que justement, cette relation, cette réflexion, penser la planète, mais penser à la fois l'égalité, la liberté, c'est vraiment essentiel. Par exemple, dans un de ses textes, il cite la déesse Freya, qui est une déesse nordique, et il dit, il ne faut pas oublier que Freya était la déesse de la Terre, mais aussi la déesse de la liberté. Et ça, c'est exactement son projet-là. D'ailleurs, on le retrouve chez d'autres anarchistes de son temps, c'est de penser que la place de l'être humain sur la Terre, la relation à la Terre, est intimement liée à l'exigence de liberté.
Et on terminera sur ce beau parallèle entre la Terre et la liberté. Pour celles et ceux qui seront dans les environs de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, la ville natale d'Élisée Reclus, cet été du 15 au 19 juillet, vous pourrez aller assister au festival Les Reclusiennes. Donc Les Reclusiennes, un festival entièrement dédié à la pensée d'Élisée Reclus. On mettra le lien vers le site internet du festival sur la page de Science Chrono pour que vous puissiez voir le beau programme de ces rencontres. Et puis vous pouvez évidemment lire Histoire d'un ruisseau, ce merveilleux texte que vous avez préfacé passé, Valérie Chansigo. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous. Under the branches you gathered on the strength to bring your body back home. Will the river of your temper overcome? She too, river, will become. When strong enough, your body's back home. Beautiful swimmer, dive into her. Don't get lost. Into the tear dripping again. Talking, love, you thirst quenching. Have you, swimmer, enough strength gathered in your lungs?
Swimmers, Drifters, par un autre amoureux des rivières, François and the Atlas Mountains, dans Science Chrono sur France Culture. On continue de remonter le ruisseau, cette fois le ruisseau du temps, et on retourne dans le passé. On arrive à présent au deuxième temps de cette émission.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Dans l'Antiquité, les morts étaient parfois accompagnés dans leur dernier séjour de petits objets qu'on nomme tablettes de malédiction ou tablettes de défiction. De récentes fouilles menées à Orléans ont mis au jour une nécropole atypique abritant 22 de ces objets. Cette découverte est exceptionnelle du fait du nombre de tablettes retrouvées, mais aussi de leur contenu. En effet, l'une d'entre elles présente un texte en langue gauloise. Or, on sait très peu de choses de cette famille de langues parlées par des peuples qui ne disposaient pas de leur propre écriture. On se demande donc aujourd'hui pourquoi on confiait parfois aux morts de l'Antiquité le soin de maudire ou d'envoûter les vivants, mais aussi à quoi pouvaient bien ressembler les langues gauloises. On n'oubliera pas, bien sûr, de faire un point sur les autres découvertes de ce site important, fouillé à Orléans, dont les vestiges vont maintenant demander un travail patient d'analyse. Et ce travail, ce sera le vôtre, Caroline Millereux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, spécialiste de la proto-histoire au service archéologie de la ville d'Orléans et responsable des dernières fouilles sur le site de la Porte Madeleine, où on a découvert ces merveilleuses tablettes. Bonjour Julien Courtois.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, responsable d'opérations spécialisées de l'époque romaine au sein du service archéologie de la ville d'Orléans. Merci beaucoup à tous les deux de venir nous parler aujourd'hui de vos découvertes récentes sur un site un peu particulier qu'on va décrire ensemble. Caroline Millereux, j'aimerais d'abord peut-être pour commencer qu'on remonte à l'origine des fouilles que vous avez pu conduire l'un et l'autre à Orléans sur le site de l'hôpital Porte-Madeleine. Pourquoi est-ce qu'on a sollicité vos équipes en 2016 ?
Alors, il s'agit d'une fouille préventive qui est réalisée dans le cadre de la réhabilitation du site de l'ancien hôpital d'Orléans. Avant cette fouille, qui a donc commencé en 2022 et qui se poursuit actuellement encore pour quelques semaines, quelques mois, il y a eu un diagnostic réalisé par Émilie Roux, du service archéologique également. Ce diagnostic, en 2016, est alors opéré en fait, sur des petits sondages sur une surface très restreinte, puisque l'hôpital est encore actif.
Ça, on le dira, c'est vrai que c'est une surface assez importante qui est concernée par ces travaux de fouilles. Le diagnostic, Julien Courtois, qu'est-ce qu'il a pu mettre en évidence qui vous a mis, en tout cas qui a mis les équipes d'archéologues sur une piste intéressante à creuser?
Alors, ce diagnostic, il a permis de mettre au jour quelques sépultures de l'époque romaine. Alors, comme l'a précisé Caroline, il n'y a eu que quelques sondages qu'on peut être réalisés sur ce site qui est immense, mais qui était encore occupé à l'époque. Et donc, c'est un grand coup de chance d'avoir pu trouver ces sépultures gallo-romaines, dont certaines qui étaient dans les sous-sols d'un des bâtiments de l'hôpital qui date du 19e siècle. Et donc, ces quelques sépultures, distantes de quand même plusieurs dizaines de mètres les unes des autres, enfin, en tout cas, sur deux sondages distants de plusieurs dizaines de mètres, nous permettait de restituer une nécropole de l'époque romaine dans ce secteur-là qui restait fouillé par la suite.
Caroline Milreux, ces diagnostics et cette découverte de quelques sépultures a permis la mise en place de deux campagnes de fouilles, l'une menée tout au long de l'année 2022 et une autre en 2023 qui est sur le point de s'achever, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a pu, avant de rentrer vraiment dans le détail, qu'est-ce qu'on a pu établir concernant l'occupation globale de ce site? À quoi ça servait
voilà. Alors déjà, effectivement, la parcelle de l'hôpital, c'est une énorme parcelle de 5 hectares. Mais la partie nord de cette parcelle est occupée par deux bâtiments. Donc l'hôtel-lieu, dont parlait Julien, où ont été découvertes les premières sépultures. C'était un bâtiment de la moitié du... Enfin, inauguré en tous les cas au milieu du 19e siècle. Oui. Et puis un autre bâtiment, plus ancien, de la fin du 17e siècle. Et en fait, c'est à cette époque que sont installés, qu'arrivent les premiers bâtiments hospitaliers. Donc déjà, on a une partie de l'histoire du site récente qui nous concerne, puisque sur la partie sud du site, là où on a pu intervenir, on a les aménagements annexes de ces bâtiments. Mmh. Pour commencer.
Alors, ce site, il est occupé depuis le néolithique. Donc, nous, on va se concentrer sur la partie gallo-romaine, puisqu'il y a ces sépultures et ces tablettes. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire de façon un peu globale de cette occupation au long cours?
Alors, déjà, on est en dehors de la ville jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mmh. On a les premières traces d'établissements, des caves, des maisons découvertes sur le site aux alentours du XVIe siècle, voire un peu plus tôt. Avant, donc entre la fin de la proto-histoire et cette période, on va avoir plusieurs espaces funéraires qui ne vont pas se succéder, mais qu'on retrouve sur tout le site. Un premier à la fin de l'âge du fer. Mmh. On est 2 siècles avant la nécropole gallo-romaine. Donc cet espace-là, il est également très important. Il se situe sous la nécropole. Il n'a pas tout à fait la même orientation. Alors, on sort vraiment de la fouille, donc on n'a pas encore tous les éléments.
Oui, mais c'est bien, vous reviendrez nous en parler.
Mais on est déjà sur un espace à la frontière entre le funéraire et le cultuel. Mmh. Voilà.
Julien Courtois, si on se concentre maintenant sur cette période gallo-romaine, que sait-on d'Orléans à l'époque gallo-romaine? Quelle était cette ville? Quel peuple gaulois la peuplait? Comment on peut présenter cette cité-là?
Alors, Orléans, donc, qui se nomme Kenabum. Donc à l'époque gauloise et à l'époque romaine, c'est une des villes très importantes du peuple gaulois des Carnutes, mais qui n'est pas la capitale des Carnutes. La capitale, c'est Autricum, c'est-à-dire Chartres actuellement. Et donc Orléans va rester pendant toute la période romaine une ville très importante de ce peuple, parce que c'est un port sur la Loire, et donc c'est vraiment une place commerciale très importante. Chartres, c'est la place, on va dire, administrative. Mmh. C'est vraiment le chef-lieu administratif de la cité des Carnutes, et Orléans tient lieu un petit peu de port commercial pour cette cité, pour ce peuple gaulois des Carnutes.
On a trouvé donc, Caroline Milreux, une nécropole gallo-romaine à cet endroit-là. Les nécropoles gallo-romaines, on en trouve assez régulièrement quand on réalise... en tout cas, c'est un objet qui n'est pas si rare. Ce qui est rare avec cette nécropole-là, c'est sa structure, c'est sa forme. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux nécropoles classiques, on va dire?
Alors déjà, juste pour préciser, on a de très bonnes connaissances de la ville d'Orléans, mais moins de ses espaces funéraires. Oui. Voilà, c'est très mal documenté. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir fouiller une nécropole, alors quasi complète. Hein. On n'en a pas l'extrémité nord, mais il est possible qu'on y intervienne.
Et on invite les décideurs à vous laisser.
Merci, voilà, c'est exactement ça.
Alors, pour revenir donc à ma question, donc c'était cette question de la structure, en particulier de cette nécropole-là. Qu'est-ce qu'elle a d'original?
Alors, elle nous intéresse également par sa structure qui est atypique. Elle a une organisation très particulière. Comme je vous le disais, on est à l'écart de la ville. On n'est pas très loin du premier faubourg, qui constitue une des voies de sortie les plus importantes, une très importante de l'agglomération. On a les premières traces d'habitat, Julien, tu confirmeras, qui sont à 200-300 mètres. Oui. Et puis, donc on a cette nécropole qui parcourt le site du nord au sud. On est à quelques centaines de mètres de la Loire, en rive droite. Hein. Et puis, qui est situé donc sur la pente du coteau. On est en sommet de coteau sur un petit plateau. Et on a cette nécropole qui forme une bande qui est orientée nord-est-sud-ouest. Une bande de 150 mètres de long sur la fouille, mais donc qui peut s'étendre peut-être à 250 mètres. Et très étroite, c'est-à-dire 5 mètres de large au plus.
Julien Courtois, d'habitude, c'est vrai que les nécropoles, elles s'étalent, un peu comme nos cimetières à nous, et là, on est sur une structure en longueur, c'est étonnant.
Exactement. Donc, les nécropoles, à l'époque romaine, déjà, sont toujours à l'extérieur des villes. Ce qui est assez pratique pour nous, archéologues, parce que quand on a une nécropole, on sait qu'on n'est plus dans la ville. Mmh. Et donc là, c'est, en l'occurrence, c'est le cas ici. On est juste derrière les faubourgs, on est à proximité de des faubourgs et de la sortie de la ville. Et les nécropoles classiques sont vraiment assez étendues ou disposées le long des voies de sortie de villes. Là, on a un schéma qui est complètement différent, qui est dans cette bande très étroite qu'a décrite Caroline, et qui vient prendre place le long d'un mur qu'on a identifié sur toute la longueur, quasiment toute la longueur de la nécropole, et donc qui vient vraiment faire une espèce de séparation physique déjà entre ce qui se passe à l'est, c'est-à-dire la ville, et ce qui se passe à l'ouest, juste à l'ouest, c'est la nécropole.
Ce mur, il fait 60 cm d'épaisseur à peu près, donc c'est pas une muraille, Caroline Milreux.
Non, c'est plutôt une limite parcellaire, un muret, c'est pas un mur de bâtiment non plus.
Voilà. Une nécropole, on y enterre des morts. Combien de personnes a-t-on retrouvé, Julien Courtois, dans cette nécropole gallo-romaine ?
Alors, pour l'instant, ce sont 80 individus qui ont été fouillés, mais il y en a certainement d'autres. On sait la nécropole se prolonge au-delà, vers le nord, c'est ce que disait Caroline, et notamment en direction de l'ancien Hôtel Dieu, donc là où avaient été identifiées les premières sépultures lors du diagnostic en 2016. Donc, il y a fort à parier que si on peut intervenir à un moment donné dans les sous-sols de l'Hôtel Dieu, on trouve d'autres sépultures. Mmh. Pour le moment, c'est 80, ce qui est déjà pas mal, ça nous fait un corpus assez important.
Et qui est assez révélateur, en tout cas qui pose beaucoup de questions. Caroline Milreux, qui sont ces individus-là ? Il y a quelque chose d'assez étonnant là.
Alors, on se pose des questions, effectivement, parce qu'il s'agit uniquement d'hommes. Alors, une exception, une fosse trouvée l'année dernière, et dans le cercueil est inhumée une femme au-dessus d'un homme. Je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui.
Quelle moyenne d'âge à peu près ?
Alors, on est entre l'âge au décès entre 20 et 50 ans.
Donc, pas d'enfants. Donc, c'est des personnages plutôt jeunes, pas d'enfants. Donc, ce n'est pas des sépultures familiales, a priori, donc.
Alors, on ne pense pas, parce que ça fait quand même un certain nombre d'individus. Mmh. Et surtout, cette nécropole, on a oublié de préciser qu'elle elle commence à la fin du 1er siècle et s'étend jusqu'au milieu du 3e siècle. Donc, on a une occupation longue, une réutilisation de cet espace. Et on continue, on inhume uniquement des hommes pendant 2 siècles.
Julien Courtois, alors si ce sont que des hommes qui sont enterrés pendant près de 2 siècles, comment on peut catégoriser leur appartenance sociale ? Est-ce qu'on a trouvé d'autres objets qui pourraient nous mettre sur la piste et nous dire, tiens, ils appartiennent peut-être à cette corporation ou à tel groupe social ?
Eh ben pour le moment, non, on n'a pas vraiment d'indice flagrant qui permettrait d'identifier ces personnes. Si on avait trouvé des armes, par exemple, on aurait pu s'orienter vers des militaires. Là, on n'a pas trouvé une seule arme dans toutes ces sépultures. Donc on peut assez légitimement évacuer cette hypothèse, d'autant plus que l'étude des squelettes a montré qu'il n'y avait pas eu de traumatisme sur les ossements liés à des blessures, liés à des batailles, etc. Des combats, voilà. Donc on peut exclure l'hypothèse des militaires, mais après, il y a plein d'autres hypothèses possibles. Alors, soit des corporations, soit des édiles, des magistrats. Voilà. Pour l'instant, on a plein d'hypothèses, mais on n'a absolument pas d'éléments qui permettent de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre.
Et puis, sur ces 80 sépultures, on y vient enfin, Caroline Milreux, on trouve 22 tablettes de malédiction. Des tablettes de défiction, comme on les nomme de façon un peu plus scientifique. Que sont ces tablettes-là ? Avant qu'on se concentre sur ces 22 tablettes-là, ça sert à quoi ? C'est quoi cette pratique ? Pourquoi est-ce qu'on va confier à des morts des malédictions comment ça se passe ? Pourquoi ces objets-là existent ?
Alors, c'est une pratique magique, tout simplement. C'est comme ça que les auteurs la décrivent. Ce sont des petites plaques de plomb. Essentiellement du plomb pour cette pratique de la défiction. Donc défiction, ça vient du latin défixio, qui veut dire clouer, figer, fixer. On veut fixer une personne. En grec, on dit katadesmos, c'est l'envoûtement. Donc ce sont des tablettes d'envoûtement. On veut contraindre un rival, tout simplement.
Quand on arrive à traduire ces tablettes-là, Julien Courtois, que contiennent ces textes de malédiction ? Et pourquoi les vivants confient ces objets aux morts ? Pourquoi on enterre ces objets-là ?
Alors en fait, les tablettes de défiction, donc en effet, ce sont des malédictions qui, le plus souvent, sont retrouvées dans des contextes liés aux divinités chthoniennes, c'est-à-dire aux divinités de la terre, des enfers. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve souvent en contexte funéraire avec des morts, mais on les retrouve aussi dans des puits, au plus profond, vers les profondeurs de la Terre, mais aussi dans des sources, puisque l'eau jaillit de la Terre, et donc on suppose que là, c'est un vecteur en direction des divinités. Et donc, il faut voir aussi qu'il y a plusieurs types de malédictions. On peut les catégoriser un petit peu. Donc, il y a des malédictions qui sont liées plutôt à des différends juridiques entre des personnes. Donc, on va maudire tel ou tel pour que
Hermès ou Mercure punissent la personne.
Il y a différends juridiques, ça peut être des différends pécuniers, mais ça peut être aussi des différends amoureux. Voilà, donc il y a plusieurs catégories comme ça qui permettent de classer un petit peu ces malédictions. Et le plus souvent, donc évidemment, les personnes qui sont maudites sont nommées. Voilà. Mais celui qui maudit n'est jamais nommé parce que, à l'époque romaine, c'est très 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 mal vu de maudire quelqu'un. Les malédictions sont extrêmement mal vues et donc il faut surtout pas que son nom soit affiché tel quel.
Alors là, on peut parler d'un jackpot quand même avec cette découverte de 22 tablettes de malédictions en France. En France, on en connaissait 40 seulement, en Gaule romaine en tout cas. Caroline Millereux, ça c'est, voilà, d'un coup, le corpus augmente de 50%, c'est colossal.
Exactement, oui.
Bravo, alors du coup, on va savourer le champagne.
C'est plein d'espoir en fait, et c'est surtout qu'une des tablettes est en langue gauloise, et Julien y reviendra en détail, hein, mais des longues inscriptions en gaulois, on en trouve une tous les 10 ans.
On connaît combien de textes, Julien Courtois, en langue gauloise actuellement? Très très peu, puisque on le rappelle, les Gaulois n'avaient pas d'alphabet.
Exactement. Donc, on comptait à peu près 400 textes en langue gauloise. Donc, les Gaulois ont une langue, mais n'ont pas d'alphabet. Donc, ils empruntent soit l'alphabet grec, alors plutôt dans le sud de la France, soit pour le reste de la Gaule, plutôt l'alphabet latin. Donc, 400 textes, c'est à la fois beaucoup et très très peu pour une langue qui a disparu et qu'il faut reconstituer. Donc, un texte supplémentaire avec en plus plusieurs mots de langue gauloise, c'est toujours une pièce supplémentaire du puzzle en plus.
Et on reviendra au contexte et aux moyens de la découverte et du déchiffrement finalement de cette tablette de malédiction, mais j'aimerais qu'on s'attarde quand même encore sur ces objets un peu étonnants. Caroline Millereux, qui les fabrique, ces tablettes de malédiction?
Alors, ce sont des magiciens, tout simplement.
Tout simplement.
il faut savoir que donc l'usage du plomb qui est très important. Il a deux raisons. Un côté très pratique. C'est un matériau qui est malléable, facilement incisable. Et puis, il a une raison aussi symbolique. Métal froid qui renvoie encore une fois aux divinités souterraines. Donc, on fait une commande à un magicien qui fabrique la petite formule magique et l'incise sur la tablette.
Julien Courtois, ces tablettes, donc on en a retrouvé 5 durant la première campagne de fouille, puis 17 durant la seconde. On a pu étudier de façon approfondie que ces 5 tablettes, que entre guillemets, puisque sur ces 2, sur ces 5, 3 étaient pas assez en bon état, elles étaient trop dégradées.
Voilà.
Quand on prend les 2 autres tablettes, est-ce qu'on peut deviner, en les regardant à l'œil nu, qu'elles sont porteuses d'inscriptions?
Alors pas nécessairement, parce que les 2 tablettes qui portent les inscriptions qui sont très bien conservées, les autres en effet on sait qu'elles sont inscrites mais elles sont à l'état de 1000 pièces, donc malheureusement on ne pourra pas reconstituer le texte. Mais pour les 2 tablettes qui étaient très bien conservées, on a eu la chance de les trouver encore enroulées sur elles-mêmes, ou repliées et enroulées sur elles-mêmes. Ce qui fait que ça a gardé l'intégrité de l'objet, de la tablette, mais pour accéder au texte qui était à l'intérieur, il a fallu les dérouler. Donc ça c'est une restauratrice qui s'est chargée de cette opération très délicate et donc qui a déroulé la tablette en faisant en prenant beaucoup de précautions et une fois que la tablette était déroulée, on a pu voir qu'il y avait un texte à l'intérieur et ça a confirmé l'hypothèse de départ de l'interprétation de l'objet qu'on avait, comme quoi c'était une tablette de défiction.
Quels outils vous avez mobilisés Caroline Millereux pour observer ces tablettes, pour les décrypter et puis pour voir qu'il y avait des textes inscrits dessus?
Alors en fait c'est Julien qui a réuni une équipe
Julien.
De spécialistes, car pendant que je faisais la deuxième phase de fouille,
vous étiez
fouille. Exactement. Et donc
continue à trouver les tablettes et puis moi j'essaie de rassembler les spécialistes pour
Alors parlez-nous Julien Courtois de cette méthode.
Et quand on s'est aperçu justement avec la restauratrice que les tablettes étaient inscrites, il faut voir que ce sont des incisions qui sont extrêmement fines. Alors les objets sont très petits, hein, ça fait
vous 10. Avez amené d'ailleurs des scans.
J'ai amené quelques photos d'une de ces tablettes. Donc ça fait 10 cm sur 5, donc c'est vraiment tout petit, les incisions sont extrêmement fines. Et donc on peut voir à l'œil reconnu qu'il y a des incisions en utilisant une lumière très rasante, en voyant légèrement les incisions. Mais pour avoir une vision d'ensemble de l'objet, il a fallu qu'on utilise une technique qu'on appelle la RTI. Donc c'est en anglais Reflectance Transformation Imaging.
Désolé. Imagerie de transformation par réflectivité.
Voilà, ouais. En français c'est beaucoup mieux. Et donc c'est une technique de relevé qui permet de photographier un objet ou une paroi. Alors ça marche très bien sur les parois rocheuses ou sur les tableaux par exemple. Mais là en l'occurrence c'est un objet avec des sources lumineuses qu'on va faire varier au fil du temps. Et donc à chaque fois on prend une photo et il y a un logiciel qui va permettre de reconstituer.
On va lire les ombres finalement.
Exactement,
portées.
Qui va reconstituer le modèle avec la photo et virtuellement on pourra modifier la source lumineuse avec avec la souris de l'ordinateur. Et donc en forçant la source lumineuse avec une lumière très rasante, ça permet de voir le texte de manière beaucoup plus simple.
Sur ces deux tablettes qui étaient déchiffrables, je le disais tout à l'heure, il y en a une qui est écrite en latin, l'autre en langue gauloise, mais avec un alphabet latin. Si on se concentre dans un premier temps sur celle écrite en latin, à qui s'adresse-t-elle? Quelle malédiction? Quel dieu est appelé d'une certaine façon?
Alors celle qui est en latin, donc c'est elle est adressée à Mercure, au dieu Mercure, et elle est liée à une affaire de vol ou de perte d'argent, d'une somme d'argent assez importante. Alors on n'est pas très sûr encore pour le moment de la somme d'argent qui a été perdue. Il y a des chiffres qui sont visibles, mais il faut qu'on arrive à décrypter correctement tout ça pour être sûr de la somme que ça représente. En tout cas, une somme d'argent assez importante qui a été perdue, et donc il y a une série de noms par la suite qui sont donnés des personnes qui ont soit participé directement à la perte de cette somme d'argent ou au vol de cette somme d'argent, soit qui ont été complices. Donc on précise à chaque fois les personnes qui sont directement impliquées et les complices potentiels. Ce que ne précise pas cette tablette, c'est pour quelle raison cette somme d'argent a été volée. Là, on n'a pas. Alors évidemment, qui porte la malédiction, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas.
Jamais.
Et on ne sait pas aussi ce qui est demandé comme jugement au dieu Mercure. Donc on ne sait pas quels supplices sont adressés aux personnes qui sont maudites.
Pour ce qui est de celle en alphabet latin, mais en langue gauloise, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que là, c'est super compliqué. On le disait tout à l'heure, les langues gauloises, c'est une terra incognita quasiment. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de cette inscription-là et pourquoi elle est aussi précieuse?
Elle est aussi précieuse parce qu'en effet, toutes les inscriptions gauloises sont extrêmement rares. Donc une inscription en plus, c'est toujours une pièce du puzzle supplémentaire. Et puis aussi, ce qui est très très intéressant, c'est que voilà, on connaît d'autres tablettes de défiction en langue gauloise en Gaule. On en connaît quelques-unes, très très peu, mais ça se compte sur les doigts d'une main, mais on en connaît quelques-unes. Et là, ce qui est particulièrement intéressant avec celle-ci, c'est qu'on a des formulations magiques qui sont parfaitement similaires à des formulations magiques qui étaient gravé sur une tablette trouvée à l'hospitalier du Larzac, donc dans l'Aveyron.
Les plombs du Larzac.
Les plombs, voilà, exactement, le plomb du Larzac. Et donc, on a des formulations magiques qui sont pas exactement similaires, mais vraiment très très proches, ce qui prouve qu'il y a une espèce de bréviaire, de formules magiques qui sont utilisées.
Il y a des échanges culturels, voilà.
Exactement, des échanges culturels. Dans un grand espace de la Gaule, on utilise des formules magiques qui sont finalement très similaires.
Alors le gaulois, c'est une langue parlée mais pas écrite, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a aujourd'hui, grâce à ce genre d'objets, des pistes qui s'ouvrent pour alimenter, enrichir d'une certaine façon la linguistique gauloise, ou bien est-ce que ça suffira pas? Qu'est-ce qui nous manque concrètement, Caroline Mulreux? C'est un vaste sujet ça, Julien Courtois.
Il faut faire appel à des parallèles, parce qu'en effet le gaulois est une langue qui a disparu, donc il faut faire appel à des parallèles, des lointains cousins du gaulois, qui sont des langues celtiques insulaires, donc le vieux breton, le vieil irlandais, le vieux gaélique, donc qui permettent d'avoir des correspondances à certains mots, alors qui ne sont plus les mêmes, mais qui ressemblent énormément, et donc on peut arriver. Donc il y a des spécialistes. Donc là, en l'occurrence, c'est Pierre-Yves Lambert, qui est un éminent spécialiste de la langue gauloise depuis très très longtemps, et qui a travaillé d'arrache-pied, et on le remercie, sur cette tablette, pour arriver à avoir une traduction la plus correcte possible, en faisant justement des recherches et des parallèles par rapport aux autres mots de langue celtique insulaire. Mais il y a aussi des mots qui se rapprochent du grec sur cette tablette. Mmh. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a à la fois... Donc elle est inscrite en cursive latine, c'est-à-dire en alphabet latin cursif. Elle est majoritairement en langue gauloise, mais aussi avec des mots emprunts au grec et des noms de personnes qui sont à la fois des noms de personnes gaulois, voilà, mais aussi des noms clairement plutôt romains, latins.
Des divinités.
Alors, Mars. Non, des noms de personnes.
Oui,
alors, d'accord. La divinité en elle-même, c'est Mars, donc en effet, c'est une divinité d'origine romaine, mais qui a un épithète. Donc, c'est Mars Rigizamos, Mars le royal. Et donc la divinité est d'origine latine, mais avec un épithète lié à une, peut-être une pratique cultuelle gauloise.
Alors, on a encore 17 tablettes à étudier. Est-ce qu'elles sont toutes étudiables, exploitables, pas suffisamment dégradées,
Caroline Mimereux ? Je crois qu'elles sont toutes exploitables parce qu'elles sont en très bon état. Et certaines sont enroulées, donc feront peut-être l'objet d'un autre processus.
Quel projet de recherche, du coup, on peut mettre en place pour les étudier ?
On est en train d'ouvrir un peu le groupe de spécialistes pour élargir un peu les compétences. Et on a notamment emmené une de nos tablettes au synchrotron soleil.
Sur le plateau de Saclay,
oui. Voilà, sur le plateau de Saclay à l'automne, pour tenter d'aller encore plus loin, en fait, dans l'imagerie. Et cette tablette était pliée, enroulée sur elle-même, et on est parvenu à déjà lire quelques signes. Donc l'objectif suivant, c'est les prochains jours avec Julien de déposer un projet au synchrotron qu'on espère obtenir afin de pouvoir lire les tablettes, enfin une partie des tablettes, sans les dérouler.
Julien Courtois, expliquez-nous en deux mots le fonctionnement de ce synchrotron et pourquoi ce serait peut-être plus précis, plus performant que la technique du RTI que vous décriviez tout à l'heure.
Alors c'est complémentaire parce que la RTI, elle est très efficace une fois que la tablette est ouverte et donc on a accès au texte à l'intérieur. Là, le principe de la tomographie à rayon X, donc c'est la méthode qu'on a utilisée avec les chercheurs du synchrotron au soleil, c'est qu'on n'a pas besoin de dérouler la tablette. Donc on peut accéder à l'intérieur de la tablette sans même avoir à la dérouler. En fait, il faut imaginer que c'est le même principe qu'un scanner médical, mais que là, plutôt que de scanner un corps humain avec juste de la chair et des os à traverser, là on a des feuilles de plomb à traverser. Ouais. Voilà. Ce qui est beaucoup plus dense. Et donc là, il faut vraiment des particules avec très très forte énergie pour pouvoir traverser ces couches de plomb. Et donc, il n'y a qu'un synchrotron qui permet de faire ça avec des niveaux de puissance assez folles qu'il faut atteindre pour pouvoir traverser ces feuilles de plomb au fur et à mesure.
Est-ce qu'on peut espérer retrouver de nouveaux textes gaulois dans ces tablettes ?
Bah, on peut espérer, oui. D'autant plus que le test, comme le précisait Caroline, qu'on a fait en octobre, a prouvé. Alors, on a testé que sur une tablette et que sur une petite partie d'une tablette. Mais l'équipe qui est en charge de la ligne psyché au synchrotron soleil a réussi à calibrer les instruments et à utiliser les logiciels pour dérouler un petit morceau de cette tablette et montrer en effet qu'il y avait des incisions qui étaient visibles. Donc cette tablette-là, en l'occurrence, était inscrite très certainement plus sur les deux faces, contrairement aux autres tablettes dont on a parlé précédemment. Donc on peut espérer évidemment que certaines soient en gaulois. Peut-être même qu'on arrivera, si on arrive à scanner la totalité d'une tablette et à dérouler virtuellement cette tablette, à voir le texte et à accéder au texte sans même avoir à la dérouler physiquement.
Caroline Millereux, le site est fouillé, je crois, à 90%. Il reste 10% de fouilles. On n'a pas retrouvé que des tablettes. Alors, quelles analyses restent à faire maintenant ? Parce que le site a apporté plein d'autres informations.
Alors, sur la fouille, il y a tout à faire.
c'est souvent ça, la joie de l'archéologie.
On espère terminer au cours du printemps, on va dire. Et puis, en particulier... sur les objets découverts sur Nécropole. On n'a pas parlé du nombre aussi de monnaies qui est remarquable. On a 400 monnaies pour les deux fouilles, donc pour 80 sépultures. Donc là, il y a toutes les études également à faire, les identifications, et qui vont nous permettre en fait d'affiner la chronologie de chaque tombe, l'étude de tous les mobiliers, notamment les ossements humains. On va peut-être pouvoir avancer sur l'identité des individus, découvrir des nouvelles pathologies, des indices de mort violente. Oui. Je ne pense pas, mais enfin, en tout cas, voilà. qui peuvent nous aider. Et puis, il y a aussi des cruches qui sont déposées. Donc, des cruches alimentaires qui sont des dépôts, hein, comme les monnaies, comme les tablettes de défiction. Et ces cruches, elles peuvent contenir différents restes. Alors, peut-être des offrandes alimentaires ou des remèdes. Donc, on est toujours dans le domaine du cultuel et c'est très intéressant. Et
du coup, on prend rendez-vous.
Oui,
on prend rendez-vous pour la suite des travaux. Là, on se projette à quel horizon temporel
Fin de fouille au cours de l'année, et puis ensuite la post-fouille qui va nous occuper, je pense, tous les deux, deux années,
un petit
si
moment.
Tout va bien. Voilà.
Bon, j'espère être encore à ce micro dans deux ans. Merci beaucoup à vous deux, Caroline Millereux et Julien Courtois. On suivra de très près ces analyses à venir. Et encore félicitations pour cette belle découverte réalisée à Orléans. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci.
Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe. Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.